C'est une nouvelle année, l'année 2018. Et comme on est encore en janvier, 28 janvier, on va se souhaiter la bonne année. Vous êtes d'accord? Vous l'avez déjà fait, mais c'est bien de le refaire. Sauf que cette fois-ci, je vous demande de le faire en regardant la personne à qui vous allez souhaiter vos vœux dans les yeux. On est prêt à faire ça? Allez. Vous pouvez vous regarder dans les yeux. Alors c'est facile quand c'est notre femme ou notre mari, bien que parfois... Mais soutenez le regard, hein, soutenez bien le regard. Et tu vas lui dire que ce soit une année de grâce de la part du Seigneur dans ta vie.
Amen. Toi aussi.
Une année de jubilé. Vous savez que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. C'est incroyable les yeux, hein. C'est magnifique. Hein. Si vous trouvez un œil par terre, par contre, c'est très moche. C'est vrai, hein. C'est horrible, bien évidemment. Mais dès qu'un œil est dans son orbite, il reflète quelque chose d'incroyable, qui est immatériel, c'est la personne qui est dedans. Hein. Et quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu es en connexion avec son âme. Il n'y a pas que, les yeux, il y a aussi la parole hein, qui nous permet d'être en connexion avec l'âme des uns et des autres. Vous savez que le son de notre voix est unique au monde. C'est dingue ça. Pour ceux qui font un peu de sono, là, de musique. Il y a 6 milliards de sons différents de voix, d'intonation. Bon, je n'ai pas été vérifié scientifiquement, mais... Quand tu entends quelqu'un que tu connais te parler, tu peux avoir les yeux fermés, tu sais qui c'est. C'est dingue, hein ? Même deux jumeaux, hein ? Ils n'ont pas la même voix. Pourquoi je vous dis ça ? Ouais. Vous inquiétez pas, j'ai un message, mais en fin de compte, j'en ai cinq des messages. Il faut que je trouve lequel je vais prêcher ce matin. Et j'ai un témoignage à donner, ça c'est sûr, je vais le donner. J'ai commencé hier à parler de l'amour du Père. Et en fin de compte, pour résumer ce que j'ai dit hier, c'est que il nous faut connaître le Père pour devenir des pères. Voilà, c'est ça le résumé. Donc c'est tout un programme. C'est pas juste en deux heures d'enseignement, mais c'est toute une vie. Mais la connaissance du Père est fondamentale. Et la connaissance de son amour en particulier. Et lorsqu'on connaît l'amour du Père, alors notre âme va être guéri, restauré. C'est pour ça que je vous parle de l'âme. Parce qu'une fois qu'on est rempli de l'amour du Père, le but de Dieu, c'est que son amour puisse passer au travers de nous, puisse couler au travers de nous pour aller toucher ceux qui sont autour de nous. C'est aussi simple que ça. Et cet amour passe vraiment par une âme restaurée. Il ne suffit pas d'être hyper spirituel pour pouvoir aimer les gens. C'est bien d'être quelqu'un de spirituel, c'est-à-dire qui est en connexion avec Dieu, qui connaît Dieu en esprit, bien sûr, et qui l'adore en esprit. Mais à un moment donné, on se retrouve dans du relationnel, et le relationnel passe par le naturel de nos vies aussi. On discute ensemble, on apprend à se connaître mutuellement, on apprend à se communiquer de l'affection, on apprend à s'écouter. Bref, c'est pas hyper spirituel toutes ces choses-là, mais c'est hyper important, parce que c'est au travers de tout cela, tout ce domaine relationnel, que l'amour spirituel de Dieu, l'amour agapé, l'amour incroyable qu'il a manifesté en Jésus-Christ, peut toucher ceux qui nous entourent, et bien sûr jusqu'à ceux qui ne le connaissent pas. Donc combien c'est important que notre âme soit visitée, restaurée. On a commencé à parler de ça hier et je sais que vous travaillez là-dessus depuis des années, donc ce n'est pas des choses nouvelles. Mais je crois que ce sont des choses essentielles pour aujourd'hui, parce que dans l'Église aujourd'hui, spécialement l'Église en France, nous avons besoin de pères et de mères. Et pas juste deux ou trois qui essayent de faire le job, notamment le pasteur et son épouse, que vous pouvez encore applaudir. Voilà, maintenant tu applaudis ton voisin aussi. C'est juste pour équilibrer un petit peu. On n'a pas besoin de 2, 3, 4 parents spirituels dans une église. Il nous en faut des dizaines. Parce que l'église est appelée à accueillir, l'église est appelée à grandir. Et je ne suis pas en train de parler de ministères, là, même si c'est bien d'avoir plusieurs ministères. Non, des parents spirituels, des hommes et des femmes, un mur, qui connaissent l'amour du Père, qui se sont laissés toucher, qui ont vécu l'expérience de Dieu dans leur vie et qui peuvent recommuniquer cela aux autres en accueillant et en aimant les autres. Il nous faut beaucoup de parents spirituels. La vie chrétienne, c'est un chemin vers la maturité. Mais n'attendez pas d'avoir 70 ans pour être un chrétien mûr. Je vous en supplie, dis ça à ton voisin. Attends pas d'avoir 70 ans. Bon, s'il a 70 ans, c'est trop tard. Sois un chrétien mûr le plus vite possible. On a besoin que tu deviennes mûr. On a besoin de toi. On peut être mûr en Christ rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre 25 ans ou 30. Et puis on peut continuer dans la maturité. On a vu ce matin que Billy Graham n'est toujours pas mort, dis donc. 99 ans, Billy Graham cette année. 99 ans. Eh oui. Alors, je ne vais pas parler de Billy Graham, ça c'était... Il y a un verset qui résume un peu tout ce que j'enseigne depuis une année, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Et Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Et incroyable ce verset. Vous pouvez faire le travail qu'a dit Michel tout à l'heure, juste sur ce verset-là, vous allez voir, on peut creuser énormément. « Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, donc il parle de sa relation avec le Père, je vous ai aussi aimé. » Donc là, il parle de sa relation avec ses disciples. Et par extrapolation avec nous. Donc comme le Père est en relation avec moi, une relation d'amour, je suis en relation avec vous et c'est également une relation d'amour. Et en fin de compte, c'est la même. Parce qu'il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc Jésus a aimé ses disciples du même amour que le Père l'a aimé. Et pour finir, il nous dit, eh bien, demeurez dans cet amour. Et un peu plus loin, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Donc, le Père a aimé Jésus. Du même amour, Jésus a aimé ses disciples. Et du même amour, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres. » Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on étudie la relation que Jésus avait avec son Père, et notamment l'évangile de Jean est quand même l'évangile clé pour cette relation, mais on peut trouver bien sûr des éléments ailleurs. Quand on étudie cette relation d'amour entre le Père et le Fils, on a le modèle des relations que nous sommes appelés à vivre dans l'Église. Ça, c'était un coup de pub pour cet après-midi, parce que je vais parler de ça cet après-midi. Cette relation, elle nous paraît extrêmement parfaite, inimitable. C'est Jésus et son Père, quoi. Donc on a l'impression que c'est un truc complètement loin de nous. Mais non, Jésus a modélisé cette relation dans sa relation avec ses disciples. Donc il a rendu cette relation, on va dire, très humaine. Parce que Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, c'était très humain aussi. Ce n'était pas le grand gourou qui ne faisait qu'enseigner derrière son pupitre. Non, ils mangeaient ensemble, ils dormaient les uns à côté des autres, ils se lavaient les dents les uns à côté des autres, ils vivaient ensemble. Donc ils étaient dans une relation tout à fait normale. Et dans ce cadre-là, l'amour du Père était manifesté pour eux. Donc quand les disciples entendent Jésus leur dire « Aimez-vous comme je vous ai aimé », ils ne sont pas en train de penser à la croix quand Jésus est mort pour eux, puisque Jésus leur dit ça avant la croix. Mais ils ont rien compris à la croix, donc ils ne pouvaient même pas penser à cela à ce moment-là. Donc si Jésus leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ils sont en train de penser aux 3 ans et demi qu'ils ont vécu avec lui. Et d'un seul coup, ils se souviennent des anecdotes, un style de vie, des choses très simples du quotidien. Ils ne sont pas là juste à penser aux cours bibliques qu'ils ont suivis avec Jésus. Ils pensent à un style de vie incarné. Ils pensent à du relationnel qui parfois frottait. Parce qu'il y a des moments, Jésus leur dit, « Bon les gars, jusqu'à quand vous supporterai-je » Donc on est dans le vrai, on est dans le réel. Et pourtant, l'amour du Père est complètement déversée sur eux. Et Jean, il va jusqu'à dire dans son épître, première épître, au premier verset de la première épître, il dit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux et que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. » Et il parle de sa relation dans le concret avec Jésus. Ils ont entendu Jésus, ils ont vu Jésus, ils ont même touché Jésus. Et vous vous rappelez, dans la chambre haute, au moment le plus profond peut-être de ce temps de communion, et là où il va mettre son amour au comble, le comble de son amour pour eux, ils sont autour de la table, et Jean, le disciple que Jésus aimait, il a sa tête posée sur la poitrine de Jésus. Il est dans une intimité incroyable et il connaît Jésus au point de toucher Jésus de manière affective. Quand même, mettre la tête sur la poitrine de quelqu'un, ça n'arrive pas souvent. En général, c'est entre époux qu'on fait ça. Mais là, c'était une intimité parce que Jésus était comme un père pour eux. Et je dis, on le fait entre époux, on le fait aussi entre père et fils ou père et fille, si la relation le permet. C'est une relation d'affection profonde que Jean avait avec Jésus. Bon, Jésus était un peu plus vieux que lui quand même, il y avait une différence d'âge, mais pas tant que ça, une dizaine d'années seulement. Et dans la chambre haute, Jésus va leur dire, c'est la première fois et la seule fois dans les évangiles où il les appelle mes petits-enfants. Mes petits-enfants, il dit ça à ses disciples, les gars, c'est des mecs de 25 ans, ils ont 5 ans de moins que lui, mais c'est mes petits-enfants, parce que Jésus est véritablement un père pour eux. Tout cela, je vais continuer de vous en parler cet après-midi. Ce matin, je voudrais aussi vous témoigner un peu de ce que j'ai vécu cette année, enfin l'année 2017, l'année dernière en fin de compte, parce que ça rejoint ce que je partage avec vous, et je crois que c'est important qu'on joigne aujourd'hui à nos enseignements aussi des expériences de vie qui vont permettre, je l'espère, de vous amener dans du concret. Parfois, c'est notre défaut français, franco-français. On est dans le conceptuel et on a du mal à passer au concret après. Donc, on apprend plein de choses avec notre tête. Et puis, quand on sort des réunions, après, on se dit, bon, en fin de compte, comment on fait ? Bon, c'est pas toujours comme ça, mais c'est un peu souvent comme ça. Cette année, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire qui m'a bouleversé. Au niveau de l'amour du Père, et ça s'est passé dans plusieurs étapes, je ne vais pas prendre toute la prédication pour ça, mais vous donner quelques points précis de ce que j'ai vécu. Et en faisant ça, je me rends vulnérable, vous allez voir, parce que je vais parler de choses un peu personnelles et profondes. Mais c'est ça l'amour du Père, c'est un amour qui vient nous rencontrer dans notre réalité de ce qui on est, et souvent dans nos faiblesses aussi et dans nos histoires. Moi je suis chrétien depuis 35 ans, c'était en 83, ouais, ça va faire 35 ans au mois de mai, commence à faire, et je viens d'une famille qui n'était pas chrétienne. Donc je ne vous raconte pas toute ma vie, mais c'est juste pour que vous ayez un peu le contexte pour ceux qui ne me connaissent pas. Et sur ces 35 ans de vie chrétienne, j'ai quand même 33 ans de ministère à plein temps. Donc j'ai commencé très jeune. J'ai commencé le ministère à 22 ans à plein temps, comme assistant pasteur à Paris d'ailleurs. Donc 33 ans de ministère derrière moi, ce n'est pas pour me mettre des grades, c'est juste, vous allez voir le contexte de ce que je vais vous raconter, c'est important de savoir ça. Et du coup, j'ai vécu depuis 2 ans à peu près, il y a vraiment un renouveau dans ma vie, plusieurs périodes comme ça dans mon histoire où le Seigneur m'a visité, m'a touché. Et là, dernièrement, j'ai vraiment été renouvelé par le Saint-Esprit. Et je vivais un truc dans ma relation avec Dieu qui était très fort et qui s'exprimait, on va dire, par beaucoup de joie, beaucoup de... Je suis quelqu'un qui danse, j'ai pas l'air comme ça, mais je peux danser, certains le savent. Et parfois, je cours même. Une fois, j'ai prêché, j'ai couru autour de toute la salle. Bizarre, ce gars-là. C'était en Suisse. En Suisse, cette année, ils se sont dit, mais c'est qui ce fou ? Au milieu de la prédication, je me suis mis à faire le tour comme ça en courant. Je ne vais pas vous faire l'exemple, mais j'étais en train de parler de la liberté. Donc, voilà. À un moment donné, je l'ai exprimé. Tout ça pour dire que j'ai vécu un renouveau pendant toute l'année 2016. Et début 2017... je me suis retrouvé à, à Nérac, donc dans une école du ministère Samuel, pour ceux qui connaissent, avec André de Bénet. Je vais beaucoup là-bas, je suis enseignant souvent dans les écoles du ministère Samuel. Donc j'y étais en tant qu'enseignant pour faire le boulot comme d'habitude, prêcher, enseigner, etc. Et j'étais accompagné d'une jeune femme qui s'appelle Camille, que certains connaissent bien, qui est pasteur stagiaire dans notre église de Toulouse. Camille, elle a 30 ans, elle est mariée, mère de 4 enfants bientôt, parce qu'elle est enceinte. Voilà. Donc elle était là aussi pour participer au ministère avec moi. Elle conduit la louange et puis elle peut enseigner également. Donc elle avait aussi des sessions d'enseignement. C'est dans le cadre de sa formation que je l'emmène avec moi de temps en temps. Bref, donc j'étais là dans cette école avec Camille. Et Camille, elle a prêché deux messages sur l'amour du Père. Le premier message parlait du pardon. Et le deuxième message parlait de la vulnérabilité. Et moi, je suis là, je dois prendre des notes pour corriger ce qui est dit, pour lui faire le retour ensuite, enfin le coaching normal hein, dans une formation. Du coup, je suis obligé de suivre hein, et tout écouter. Premier message, elle prêche sur le pardon. Et bon, bon message sur le pardon. Mais à un moment donné, elle commence à dire, parfois, on a pardonné, on croit avoir pardonné, mais le Seigneur revient sur des histoires anciennes pour que notre pardon descende plus profond. Et là, d'un seul coup, je sens que le Seigneur veut me parler. Donc ça, c'est la première étape dans ce message. Et je me dis, bon on va faire le job, mais le pardon, je connais quand même. 33 ans de ministère, je sais ce que c'est que le pardon, j'en ai pardonné des gens. Mais je sentais qu'au fond de moi, il y avait un truc que le Seigneur voulait faire, plus profond. Deuxième message, je crois deux jours après, hein, ça dure une semaine, la vulnérabilité. Pour que le Père puisse vous guérir en profondeur, il faut vous rendre vulnérable. Et la vulnérabilité dans les relations. Okay ? Donc moi je prends les notes, tout ça. Et là, à un moment donné, elle dit une chose très simple, elle dit « Mais souvent, on a été blessé dans les relations parce qu'on s'était rendu vulnérable, donc c'est des relations profondes, et du coup, on s'est fermé, on s'est retiré, parce qu'on a, ça fait trop mal, hein, donc on s'est fermé, et le Seigneur veut dire à plusieurs, il y a une clé pour toi aujourd'hui, si tu veux connaître plus profondément son amour, il faut que tu te réouvres à des relations profondes. » Et alors là, le Nico, il n'arrivait plus à prendre de notes parce que ça me parlait terriblement et en profondeur. Et donc c'était vers la fin du message qu'elle a dit ça et elle voulait faire un appel pour prier pour les gens dans ce sens-là. Donc moi j'étais dans l'équipe de louanges, donc tout content, je me dis ouais, je vais partir sur l'estrade à la batterie, parce que je suis batteur quand je joue là-bas, et personne ne va me voir, et on va pas parler de ce truc de vulnérabilité dans les relations, en tout cas pas pour moi, c'est très bien pour les autres. Et donc, temps de ministère commence, c'était un chant hyper doux que l'équipe de louanges prend, donc il n'y avait pas besoin de batteur, franchement, j'avais rien à faire là-haut. J'étais là derrière ma batterie, je ne jouais pas en fin de compte. Et là, Dieu commence à me toucher. Et je m'effondre littéralement, dans tous les sens du terme. Je pleure toutes les larmes de mon corps et je tombe par terre, enfin de mon tabouret. Je m'effondre dans les cris de douleur. Parce que le Seigneur me touche, mais c'est comme s'il y a un film qui passe devant moi de toutes les relations brisées qu'il y a eu dans les 33 années passées. Là, je parle des 33 années de vie chrétienne. J'ai des relations brisées, il peut y en avoir avant aussi. Hein. Mais là, le Seigneur, vu que j'avais un paquet de vie chrétienne et de ministère, c'est comme si, vous savez, il paraît quand on risque de mourir, on voit tout le film de notre vie qui défile. Et bien là, c'était un peu ça. Ça défilait avec des situations bien précises, des personnes bien précises, et avec lesquelles je me suis engagé dans des relations profondes. Moi, je suis quelqu'un, on va dire, qui n'aime pas trop le superficiel. Donc, en général, ça va vite dans de l'engagement, dans des relations d'alliance, dans des relations fortes, de ministère, d'église, de fraternité, d'amour. Bref. Bon, j'aime pas témoigner de ça, parce qu'à chaque fois, il faut que je me contiennent pour ne pas craquer devant vous à nouveau, mais je vous rassure, le Seigneur a vraiment fait une œuvre magnifique. Donc, tout n'a pas été négatif dans mes 33 ans de ministère et de relations. Il y avait aussi des choses très bonnes et très positives, heureusement. Mais quand même, il y avait une dose là. Donc, je suis là, je suis effondré dans les profondeurs de mon âme, hein, parce que ça touche l'âme, justement. Et du coup, cette notion de repardonner à nouveau, parce que c'était des situations que j'avais pardonnées. Hein, du coup, le message sur le pardon prend du sens, là. Il faut que tu pardonnes profondément. Et la grâce de Dieu est venue sur moi pour ça. Hein, ça ne s'est pas fait en deux minutes, mais quand même, ça s'est fait dans les jours qui ont suivi, enfin, dans les temps qui ont suivi. Et juste après ça, donc on passe le repas, je vous passe les détails. J'ai bu un peu trop de vin au repas. Au bout du troisième verre, quand même, je me suis arrêté. Pour vous dire que j'étais pas bien, quoi. Et, ne vous inquiétez pas, je suis pas alcoolique, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, ton âme est pas bien, donc voilà. Et puis, du coup, j'avais un peu évité de retourner voir Camille. Et puis, à la fin du repas, je vais la voir. Je vais la voir, Camille. Je la remercie, hein, pour son message. Elle avait bien vu que j'avais craqué. Ça l'avait un peu étonné. Et là, je la remercie. Et je tombe dans ses bras en larmes, à nouveau. Et je laisse en fin de compte Camille faire une œuvre de consolation pour moi. Et donc du coup, elle prie pour moi. Bon, Seigneur agit. Bon, c'est tout bête. Hein, je suis dans ses bras. Elle prie pour moi et je pleure. Et le Père me guérit au travers de cette jeune qui commence son ministère avec qui il y a une relation de père-fille avec elle qui s'établissait à l'époque et qui est maintenant bien établie. Et donc je pleure, je suis restauré, guéri. Et puis juste après ça, elle me regarde et puis elle se met à pleurer comme une madeleine. Et elle me dit, ça me fait tellement de bien qu'un ministère se soit rendu vulnérable dans ma vie. Elle, ça fait quand même une dizaine d'années qu'elle est au Seigneur et qu'elle marche vraiment dans un engagement. Et d'un seul coup, d'avoir quelqu'un qui est un peu c'est l'enseignant, c'est son coach, etc., qui craque et qui craque avec elle, ça l'a libérée, quoi. Vraiment, ça l'a libérée pour dire, mais c'est possible de vivre des choses profondes ensemble et vraies, et c'est pas toujours celui d'en haut qui est fort et celui d'en bas qui est faible. Ça vous dit quelque chose? Et là, bon, il y a quelque chose qui se fait, qui continue de se faire entre nous. Parce que un de mes appels particulièrement fort, c'est bien sûr de m'occuper de la jeune génération, de la nouvelle génération qui monte. Vous savez, je suis responsable de l'université d'été avec mon épouse. Donc, être en relation avec les jeunes, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Mais là, j'étais en train de, en fin de compte, de changer de style relationnel. C'est-à-dire de passer à quelque chose de plus vulnérable pour devenir vraiment un père qui peut être proche. Pas un ministère où il y a juste, on va dire, une espèce de distance, mais quelqu'un qui peut être proche et aller plus loin dans la formation, pas simplement au niveau biblique et toutes ces choses-là, et comment faire le ministère, mais aussi la formation du caractère, la formation dans tous les domaines de la vie, et dans le domaine de l'amour en particulier. L'amour, c'est la maturité. Je rentre chez moi, après cet épisode où vraiment ça m'a reconnecté avec tous ces jeunes, hein, il n'y a pas que Camille, il y en a plein d'autres, et le Seigneur me dit, j'ai pas fini avec toi. Dans la semaine donc, qui suivait, je me réveille un matin, je vais prendre mon petit-déj, le café, et le Seigneur me dit, reconnecte avec ton père spirituel. Alors ça, c'est trop. Mon père spirituel, c'est qui celui-là? Mon père spirituel, c'est un Américain qui s'appelle Mark Kamletter. Certains connaissent ici. Qui a une grande influence dans ma vie pendant les 4 premières années de mon ministère. Donc c'est vraiment une vieille histoire. Je ne l'ai pas vu ni parlé avec lui depuis 29 ans. D'accord? Donc c'est... Je suis là, le matin, le Seigneur me dit, reconnecte avec Mark Hamletter. 29 ans sans connexion avec lui. Je me dis, c'est quoi cette pensée? Enfin, je dis, le Seigneur me dit, au moment où je l'ai pensé, je ne pensais pas que c'était le Seigneur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Alors, je me suis dit, je vais essayer. Tant qu'à faire, allons-y, puisqu'on est dans les histoires de père, fils, il y avait une logique quand même. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais sur Internet. Le meilleur moyen de reconnecter, c'est de le retrouver sur Internet. Aujourd'hui, c'est assez facile. Je tape son nom et je tombe sur son LinkedIn. LinkedIn. On n'arrive pas en français, c'est impossible à prononcer ce truc. Ils auraient dû trouver un nom français. C'est comment on appelle ça, un truc de réseau social professionnel. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc il est avocat, Marc, aux États-Unis, en Floride. Il a un cabinet d'avocats dont il est le directeur. Donc je tombe là-dessus et je commence à lire son profil et son job. Et je me mets à pleurer comme une madeleine, pareil, de mes tripes, quoi. Et franchement, si vous avez déjà lu un profil LinkedIn, c'est pas le truc qui vous fait pleurer, quoi. Donc là, je me dis, ça vient de Dieu, le truc, quoi. Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur est en train de préparer et de faire, là. Donc, pour que vous sachiez le contexte, Mark Hamletter, c'est donc un missionnaire qui était en France avec son épouse dans les années 80, qui a implanté une église au centre de Paris, au travers d'un café d'évangélisation, café-bar. C'était l'époque Teen Challenge, tout ça, donc c'était un peu le style. Et son cœur, son but, c'était de toucher les jeunes de la rue, ou les jeunes paumés, les jeunes, en tout cas, en difficulté de la capitale. Et je dirais, le cœur de son ministère, c'était l'amour du Père. Voilà. Donc, nous, on s'est convertis dans les ADD, mais juste après, on est arrivé dans l'église qui s'implantait au pied de chez nous, donc en plein cœur de Paris, dans le 3e arrondissement, et on a découvert ce café-bar, et du coup, on s'est engagé avec lui, et c'est là que tout a commencé. J'étais son assistant pasteur pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, il y a eu un scandale qui est arrivé dans cette église, dans le ministère de Marc. Il a été accusé d'adultère, ça a été une catastrophe, je vous passe les détails, et du coup, il a tout laissé tomber, il a tout laissé en plan, et il est retourné aux États-Unis. Aux États-Unis, il a divorcé et il a abandonné le Seigneur. Ça vous explique que 29 ans sans connexion, quoi. Et moi, donc, j'avais 25 ans, 24 ans, je crois, ou 25, peu importe. Et je me suis retrouvé avec d'autres. Et Philippe Hélène était là. Hein. Donc, il y a certains qui connaissent bien l'histoire. Au centre de Paris, 25 ans. Avec une église qui vient de perdre son père spirituel et qui vient de vivre en plus des accusations et des machins terribles. On avait été devant le sang et drain des églises parisiennes pour voilà, non, c'était, je vous assure, c'était ça. Donc la formation accélérée pour moi. Et d'un seul coup, il part, quoi. Et il revient pas. Donc il a fallu soit rester, soit partir. Donc j'ai hésité quelques instants, je vous assure, entre les deux. Et je suis resté. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'étais pas meilleur qu'un autre, mais je suis resté au sein de cette épreuve avec plusieurs. Donc Dominique Guillet, peut-être certains le connaissent. Bref, c'est juste pour vous montrer le contexte. Donc mon père spirituel, que j'avais pardonné, qui pour moi vraiment est un homme qui a semé dans ma vie au niveau de l'amour et au niveau de la vision du royaume. Il était très, très attaché aussi à John Wimber dans sa formation, donc c'était la même époque. Et du coup, le Seigneur me dit, tu reconnectes avec lui, quoi. Je lui envoie un mail, et en écrivant ce mail, j'ai juste envie de le remercier. Et je dis, cher Marc, voilà, le Seigneur m'a donné à cœur de reconnecter avec toi, reprendre contact, et je voudrais juste te remercier si tu savais combien ton ministère à Paris a porté du fruit. Je suis maintenant, alors je lui explique un peu ce que je fais, mes responsabilités, et notamment le fait que je m'occupe de l'université d'été. Je lui dis, il y a 170 jeunes qui ont bénéficié des formations que j'ai mises en place, et tout ça, c'est grâce à toi. Enfin, ouais, je le remercie dans le fruit qu'il a porté. Et je lui envoie ça. Et je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu. En fin de compte, ce qu'il est devenu est étonnant. Il est revenu au Seigneur il y a 4 ans. il est revenu au Seigneur après voilà toute une histoire. Et il a vécu une restauration, une guérison, ça a été tout un processus. Et au moment où j'écris, le Seigneur est en train de lui dire « Je veux te guérir par rapport à ton expérience parisienne. » Et lui, il était en train de dire au Seigneur « Je ne veux pas que tu touches à ça. Ça va faire trop mal. » Vous imaginez la dose de culpabilité qu'il pouvait avoir par rapport à cette histoire. Il nous a tous laissés en plan. Donc il ne voulait pas que Dieu touche à ça. Il était en bataille depuis 2-3 mois avec Dieu par rapport à cette histoire-là. Et il savait que ça le bloquait, qu'il n'irait pas plus loin. Et d'un seul coup, il reçoit mon mail, quoi. Donc lui, de son côté, il a pleuré comme une madeleine. Vous pouvez imaginer en recevant ça. Il me dit, je reçois un mail du petit Nico. Il me dit, j'ai 54 ans. Un mail du petit Nico. Qui le remercie. En plus, il n'y avait rien dans mon mail, je n'allais pas l'accuser de quoi que ce soit, c'est fini pour moi toute cette histoire. Donc lui-même est complètement touché par la grâce de Dieu, et du coup il m'écrit, il me répond, il m'explique tout ça, moi je pleure de mon côté. On ne s'est pas encore revus, mais on a dû échanger une quarantaine de mails l'année dernière, on s'est raconté toute notre vie. Il m'a raconté tout, il m'a raconté l'histoire, je connais l'histoire du départ de Marc, pourquoi il est parti, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Il m'a tout confessé, toute l'histoire. Vulnérabilité. Donc mon père spirituel, qui revient vers moi dans l'humilité, dans la vulnérabilité, qui me demande pardon. Et moi, je venais de vivre ça d'une manière différente avec Camille la semaine d'avant. Chamboulé, le gars, quoi. Chamboulé. Et en fin de compte, ce que Dieu me dit au travers de tout ça, et ce qu'il me disait, c'est que je veux travailler dans l'intergénérationnel, dans l'Église. Et je veux travailler dans les 3 générations ensemble. Je sais que vous tenez aussi ce discours, c'est un message de Dieu essentiel. Je ramènerai le cœur des pères vers les enfants, vers les fils, et le cœur des fils vers les pères. C'est exactement ce que j'ai vécu cette année. Et dans les 2 dimensions, c'est-à-dire moi en tant que père avec Camille et la jeune génération, et moi en tant que fils avec Marc et donc... Derrière lui, il y a aussi toutes ces générations de leaders, de pères spirituels qui nous ont précédés et qui ont semé dans nos vies. J'ai pris pas mal de temps, mais je pense que c'était important de vous donner la totalité du témoignage, parce qu'au travers de ça, Dieu est en train de libérer ma vie. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'année du jubilé. Le jubilé, vous savez, c'est une année... qui est dans la loi de l'Ancien Testament, qui a été proclamée tous les 49 ans, il y avait l'année du jubilé. Et je ne vais pas détailler cela, mais il y avait 3 grandes choses qui se faisaient lors du jubilé. La première chose, c'était la remise des dettes. La deuxième chose, c'était la libération des esclaves. Et la troisième chose, c'était la restitution des propriétés. C'est fantastique, on commence à étudier ça en détail. Et c'est les 3 dimensions du jubilé. Et vous savez que lorsque Jésus a inauguré son ministère dans la synagogue à Capernaum, vous trouvez ça dans Luc 4, il a pris ce texte du jubilé. En tout cas, celui d'Ésaïe 61, mais qui fait référence au jubilé. Et Jésus inaugure son ministère, donc il est en train de dire, voilà ce qui se passe. J'annonce une année de grâce de la part du Seigneur. L'Éternel, le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, guérir les aveugles, on pourrait lire le texte, vous connaissez ce texte, pour annoncer une année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu. Et je crois que c'est vraiment ça que Dieu est en train de faire. En tout cas, il le fait dans ma vie, il le fait dans beaucoup d'endroits. Il veut nous libérer. Il veut nous libérer. Il veut répandre son esprit d'adoption. Il veut nous sortir de l'esclavage. Il y a un esprit d'orphelin sur le pays. Il y a un esprit d'orphelin sur la France. Parce que la France, dans son histoire, et je l'ai dit hier, mais là, comme on est tous ensemble, je le redis, la France, dans son histoire, s'est séparée de Dieu, s'est séparée de l'autorité, s'est séparée de la paternité. À la Révolution française, ensuite en mai 68, il y a quelque chose qui est là et qui, on va dire, est dans les racines même maintenant de notre culture française. Nous ne savons pas ce qu'est l'autorité. Nous ne savons pas exercer l'autorité. Nous ne savons pas nous soumettre à l'autorité parce que nous ne connaissons pas le Père. Et ça touche nos vies entières, ça touche nos vies familles, ça touche nos entreprises, ça touche notre école, notre éducation nationale, ça se répercute dans tous les domaines de notre société. Et pourtant, on est une société fantastique. Une des caractéristiques de la société française, dans son histoire et dans sa réalité culturelle, c'est l'amour, c'est le relationnel. Les Français ne sont pas des gens superficiels. Les Français aiment les profondeurs dans l'amour. Et c'est pour ça que les Français sont des hommes et des femmes blessés. Parce qu'on ne connaît pas le Père. Du coup, on ne sait plus s'aimer les uns les autres. Et pourtant, il y a quelque chose en nous qui dit « c'est ça qu'on veut ». Et c'est ça qu'il faut vivre. Et dans l'Église aussi, en plus, on a le commandement « aimez-vous les uns les autres ». Donc du coup, on veut le vivre. Et on a malheureusement, à cause de cette réalité-là, quelque chose de blessé en nous. Vous savez que les Français sont... La France est un des pays où il fait le meilleur vivre sur la Terre. Quand même. Après, c'est la Norvège et la Suisse. Quoi. Mais on est un pays où normalement, tout le monde devrait être heureux de vivre. On est un des pays les plus dépressifs de la Terre. Qu'est-ce qui se passe en France ? Ah bon, il y a un peu de chômage, oui, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais quand même, qu'est-ce qui se passe en France ? La France est dans un esprit d'orphelin, elle est dans une prison, et les Français sont dans cette prison. Et il y a une distorsion entre ce que nous aspirons à vivre et ce que nous sommes capables de vivre. Et ça touche l'Église. Si l'Église entre dans son jubilé, la France va se réveiller. La France va voir ce qu'elle a envie de vivre. Nous, on a la clé. Ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est nous qui avons la clé. Et la clé, c'est de connaître le Père. La clé, c'est de se laisser toucher par son amour. La clé, c'est de se rendre vulnérable dans nos relations aussi, pour que l'amour puisse couler à nouveau. Et dans cette histoire du jubilé, la première chose, c'est la remise des dettes. Et la remise des dettes dans la nouvelle alliance, même si ça peut être financier, c'est avant tout le pardon. La dette que nous avions envers Dieu a été remise à la croix. Il nous a pardonné tous nos péchés. Donc c'est le fondement de l'évangile, c'est le fondement du jubilé, c'est le fondement pour trouver la vraie liberté. C'est le pardon. Pour ça, dans mon histoire, je vous parle de pardon. Parce que le pardon... C'est deux choses. C'est recevoir le pardon pour nos fautes. Donc ça veut dire confesser nos fautes. Ça veut dire savoir demander pardon à Dieu et parfois demander pardon aux autres pour recevoir le pardon. Mais ça, c'est qu'une partie du pardon. Vous le savez bien, c'est même une partie qui ne va pas porter de fruits si on ne vit pas la deuxième partie, qui est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. On a tous des offenses et on en recevra tous. On a tous blessé quelqu'un, on a tous été blessés par quelqu'un. Le pardon doit devenir un style de vie. Vous vous rappelez Pierre, Seigneur, combien de fois par jour vais-je pardonner mon frère quoi, parce que ça va, au bout d'un moment quand même. 77 fois, 7 fois Pierre. Ce qui veut dire autant de fois nécessaire. C'est un style de vie. C'est le style de vie du jubilé. Quand on est dans ce style de vie, l'amour du Père peut couler. L'amour du Père peut couler. Pardonnez. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Décidez de pardonner. Décidez parfois de repardonner. Et de re-repardonner. Et en faisant ça, vous allez découvrir combien le Père vous aime et vous rend capable d'aimer. La deuxième dimension de ce jubilé, c'est la libération des esclaves. Il y a un livre qui avait été écrit à l'époque, hein, Le pardon, une puissance qui libère. La libération des esclaves. Quand tu pardonnes, tu libères l'autre et tu te libères toi-même. Tu vis un jubilé, tu pardonnes l'autre, tu arrêtes de retenir contre lui ses fautes. Et parfois, c'est juste, hein, il est vraiment péché contre toi. Donc, ce n'est pas du fictif, c'est du réel. Du coup, il est enfermé dans la condamnation et toi, tu es enfermé dans le jugement. C'est deux prisons. Ça. Et la France, on est très fort pour ça. On juge tout le monde et on se condamne. Et la culpabilité en France, c'est high level. Parce qu'on juge. Si tu juges, tu culpabilises. Je cherche pas. C'est, les deux choses sont là. C'est deux prisons qui ne peuvent se briser que par le pardon et la grâce. Pour tourner le truc dans tous les sens, il n'y a pas d'autre solution. On pardonne, on fait grâce. On fait grâce. On donne la grâce qu'on a reçue. On libère les autres parce qu'on a été libérés. Qui sait, quand Jésus parle de cette femme-là, qui a beaucoup péché, elle a beaucoup péché, donc elle aimera beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Hein ? Donc ce n'est pas qu'il faut beaucoup pécher pour connaître la grâce. C'est qu'il faut beaucoup pardonner et recevoir le pardon. Il faut connaître la grâce. Et on a tous péché, on a tous beaucoup péché. Et en faisant cela, on libère. Et quand tu libères, tu permets, et c'est la troisième dimension du jubilé, tu permets à la personne d'entrer dans son héritage. Et toi, tu vas aussi y entrer. Quand tu libères la grâce, tu ouvres un chemin pour l'héritage, pour le statut de fils et de fille. Vous rappelez, et je vais terminer avec ça, la parabole du fils prodigue. Je ne sais plus où j'en suis au niveau de l'horaire, ça va ? Ouais. Ouais, c'est parfait. Alors j'enlève mon pull. Ouais, ça chauffe quand on parle de choses. Bon, bref. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, c'est la parabole de la grâce par excellence. Sauf qu'il y a deux fils. Il y en a un qui découvre la grâce de Dieu et du coup qui en bénéficie pleinement. Et il y a l'autre qui ne l'a jamais découvert et qui du coup n'en bénéficie pas. Alors ce qui énerve dans cette parabole, c'est que celui qui la découvre, c'est celui qui a fait n'importe quoi. Alors que celui qui ne la découvre pas, c'est celui qui était fidèle et obéissant. Donc il y a un petit sentiment d'injustice. Et puis nous, la justice, on aime bien. Mais ce n'est pas juste. C'est pour ça qu'on ne veut pas pardonner. Ce sentiment d'injustice là, qui est fort en nous. Et puis ça vient de Dieu, hein, là, ce sentiment. Vous savez que la notion de justice vient de Dieu. C'est lui qui est sur le trône, c'est lui qui juge et il jugera tous les hommes avec justice. Donc du coup, on est créé à son image, donc le sentiment de justice fait partie de qui on est. Mais si on n'a pas la grâce, du coup, on s'enferme avec ça. Et on juge et on veut que les gens soient punis. Vous avez déjà pensé, allez, soyons honnêtes, est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un en disant, s'il pouvait avoir genre un accident de voiture, ça serait cool. Non, c'est trop méchant, ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste bon, qu'ils prennent un petit coup, quoi, quand même. Il y en a marre, quoi. Seigneur, occupe-toi de lui. Des charbons ardents sur sa tête, vous savez. La vengeance. Non, c'est, vous n'êtes pas comme moi ? Non, vous êtes gentil, vous. Ouais. Donc ça, c'est le fils aîné de la parabole. Il n'a qu'une envie, c'est que le fils prodigue, là, qui reçoit la grâce, franchement, il est une bonne fessée, le gars, quoi. Et lui, il a dilapidé l'héritage, il a été faire n'importe quoi, et tu l'accueilles avec grâce, il n'a même pas besoin de tomber dans une repentance incroyable, tu le prends dans les bras, et tu l'aimes. Bon, il y a de la repentance, mais ce n'est pas la repentance imposée par le père. C'est la repentance que le gars, il a vécu quand il était avec les cochons, quoi. Et d'un seul coup, sa conscience lui dit, c'est pas possible. Tu t'es gouré de chemin, il faut que tu reviennes à la maison. Ça, c'est la repentance. Donc, il vit vraiment une repentance. Mais quand il arrive, le père le guettait. Le père nous aime. Franchement, le père nous aime d'un amour extraordinaire. Et le fils aîné est aimé du même amour. Il n'y a aucun doute là-dessus. le fils aîné est aimé du même amour que le fils prodigue. Mais le fils prodigue revient vers son père. Et quand il arrive, le père le prend dans les bras. Et il lui fait un gros câlin. Moi, j'aime bien faire des câlins maintenant. Il lui fait un gros câlin. Il le serre. C'est son fils bien-aimé. Donc, c'est toute l'affection. On parlait de cela hier. Jésus était rempli de l'affection du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et c'est cet amour du Père que le fils prodigue bénéficie. Et du coup, qu'est-ce que le Père déclare sur lui ? Redonnez-lui toute sa dignité. Oh, mais Seigneur, je veux juste être un esclave dans ta maison. Non, 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 c'est fini ça. C'est fini le temps de l'esclavage. Tu reprends ton statut de fils. Mettez-lui un manteau. Mettez-lui des souliers aux pieds et un anneau au doigt. C'est son héritage. Il redevient héritier. Il redevient co-héritier du Père. Et il va entrer dans son héritage. Il est dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et pendant ce temps-là, vous rappelez, le fils aîné, lui, il est au champ, en train de travailler, et il entend une fête. Oui, parce que le père ne s'est pas arrêté là. Après, il a dit, on va faire la fête. Moi, j'aime bien faire la fête. Tuer le veau gras et amener des liqueurs fortes. Non, ça, ce n'est pas dans le verset. Mais... mais c'est quelque part dans la Bible, quand même. Faisons la fête parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Hein, vous savez, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On prend toujours ce verset-là pour l'évangélisation. Mais le verset ne parle pas que de l'évangélisation. C'est aussi, à chaque fois que toi, tu te repens, il y a de la joie dans le ciel. Ce n'est pas que pour les non-chrétiens, la joie dans le ciel. C'est aussi pour le fils aîné qui est dans la maison, mais il ne se repent pas, le fils aîné. Donc on ne peut pas faire la fête. La repentance produit la fête. La vraie repentance ne produit pas l'espèce de tristesse religieuse. Ça produit la fête. La grâce de Dieu, le jubilé. Donc le fils aîné, il entend ça et il est jaloux, quoi. Il dit quoi ? Celui qui a dilapidé l'héritage. Et si vous lisez le texte, c'est le père qui fait le premier pas. Ce n'est pas le fils aîné qui va voir le père pour lui dire qu'est-ce qui se passe. C'est le père qui va chercher le fils aîné. Parce qu'il a entendu dire qu'il n'était pas content. Le père va le voir. C'est toujours le père qui fait le premier pas. Et dans le texte de l'onction d'Élie, là, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est au père de faire les premiers pas. Parfois, c'est dur, mais ça nous responsabilise. Donc le père fait le premier pas et il va avec le même amour vers le fils aîné. Et il lui dit, mais quoi, mon fils ? Tout ce que j'ai t'appartient. Tu pouvais te réjouir, tu pouvais profiter pleinement de ton héritage, mais tu n'as pas compris mon amour. J'étais avec toi tous les jours, tu n'as pas compris mon amour. Tu t'es placé toi-même dans le rôle de serviteur alors que tu étais mon héritier. Tu n'as pas compris le message. Et on aimerait bien voir la suite de la parabole, on ne l'a pas. Est-ce qu'il est venu faire la fête quand même ou est-ce qu'il est retourné dans les champs boudés ? J'espère pour lui qu'il est entré dans la fête et dans son héritage et qu'il est venu prendre son frère dans les bras. Mon frère qui était mort est revenu à la vie, réjouissons-nous ensemble. Je vais t'apprendre comment fonctionne la maison, tu vas voir, il y a plein de trucs incroyables. Mais il fallait d'abord qu'il pardonne son père et son frère. Ça, la parabole ne nous dit pas s'il l'a fait. Et vous savez que parfois, il va falloir que l'on pardonne Dieu. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut pardonner Dieu ? Dieu n'a pas péché envers nous. C'est clair, on ne le pardonne pas, c'est péché. Mais c'est une compréhension, une mauvaise compréhension que nous avons de comment Dieu a agi avec nous qui très souvent nous bloque. Seigneur, tu dis que tu es amour, tu dis que tu es bon, mais regarde ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est vrai, parfois, il y a des trucs, on ne comprend rien. Il faut être honnête. Et du coup, à ce moment-là, ça nous bloque pour recevoir la grâce. Et il faut pardonner Dieu. En tout cas, faire une démarche où on libère Dieu de nos sentiments d'injustice, de nos incompréhensions. De Dieu est Dieu. Et il fait tout avec justice, sur la base de son amour et de sa grâce, même si on ne comprend pas. Et je n'avais pas prévu de dire ça, mais peut-être ça concerne plusieurs parmi vous. Apprendre à pardonner Dieu. et ensuite pardonner les autres, bien évidemment, pardonner à ceux qui nous ont blessés, pardonner nos parents spirituels, qui parfois n'ont pas fait le job comme il fallait. Ou si vous êtes parent spirituel, pardonnez vos enfants spirituels, qui parfois nous ont trahis, ou nous ont dit envoyer des trucs à la figure qui n'étaient pas justes. On a nos histoires. Hein. Et la grâce va nous réconcilier. Une église, le défi d'une église, c'est dans la durée. Hein. Ce n'est pas de vivre une bonne réunion. C'est super de vivre des bonnes réunions. Moi, je suis fan des bonnes réunions. Mais on ne fait pas de l'événementiel dans l'église. Il y a des gens qui font de l'événementiel et que Dieu les bénisse, il en faut parfois. Mais une église locale, c'est dans la durée. C'est dans la durée. Et dans la durée, il y aura des blessures. Dans la durée, il y aura des déceptions. Dans la durée, il y a toute la vraie vie de Jésus avec ses disciples. C'est-à-dire qu'on va manger ensemble, on va faire la gape, c'est toujours les mêmes qui font la vaisselle, il y en a marre. Vous voyez ce que je veux dire ? De la vraie vie. C'est la grâce qui va nous permettre d'être la famille de Dieu, restaurée, accueillante, qui libère les autres et qui accueille ceux du monde, qui accueille les Français qui ne connaissent pas l'amour du Père. Alors on va vivre juste un temps là où on va prier ensemble, parce que je voudrais que le Père fasse son œuvre dans nos cœurs. Et il y a plein de choses qu'il veut faire. Mais la première chose, c'est qu'il nous demande de nous lever. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi debout. Je vous invite juste à fermer les yeux et à laisser le Père vous toucher. Vous le connaissez aussi bien que moi. Et vous savez combien il est bon et combien son amour est capable d'aller dans les profondeurs de nos cœurs. Et je prie vraiment que cet esprit d'adoption continue de descendre sur nous et de nous remplir et de nous toucher. Je t'invite, Saint-Esprit, à aller plus profond dans nos vies, dans nos cœurs. Et par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je prie, Seigneur, que tu touches tous ceux qui ont été interpellés et que tu veux guérir et restaurer. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, même si ça veut dire de faire face parfois à la douleur, à des relations brisées, par exemple. Je vous en prie, laissez le Père venir toucher ce qu'il veut toucher, parce qu'il veut le faire, c'est sûr, dans son amour, il veut nous guérir. Et on ne peut pas provoquer cela, on peut juste inviter le Père à le faire. Il y a des temps où Dieu le fait, et c'est quand il le fait qu'il faut vraiment le vivre à fond. Donc je prie simplement, Seigneur, pour mes bien-aimés qui sont là, afin qu'ils soient dans le temps que tu as préparé pour eux, pour un jubilé, pour une libération intérieure, pour une grâce particulière. Viens par ton amour, Seigneur. Et si vous voyez si vous êtes convaincu d'une chose précise à pardonner, eh bien, juste commencez à le dire. Commencez à dire au Seigneur, je voudrais que tu me donnes la grâce de pardonner cette situation. Et soyez juste précis. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de volonté. C'est une question de dire, je veux entrer dans la vraie liberté Alors je veux libérer telle ou telle personne, telle ou telle situation. Et je veux pardonner et faire grâce. Et d'autres peut-être sont convaincus d'avoir blessé quelqu'un. Et c'est le moment de demander pardon au Seigneur déjà. Et peut-être parfois, il faut faire une démarche vers la personne. Mais en tout cas au Seigneur, il faut commencer à reconnaître qu'on a été dur ou qu'on a été méchant. Et demander pardon. Viens Saint-Esprit, viens illuminer les cœurs, viens éclairer avec toute la douceur que tu manifestes dans nos vies. Nous laissons le regard de Jésus descendre sur nous maintenant. Ses yeux incroyablement compatissants et tellement limpides, précis. Merci Seigneur. Alléluia. J'invite vraiment l'esprit d'adoption à descendre sur vous. Esprit de réconciliation entre les générations. Que ce travail puisse vraiment continuer, s'approfondir dans cette église pour aller jusqu'au bout. Que vous entriez pleinement dans votre jubilé, dans la joie des relations restaurées et dans la liberté du travail ensemble.